Vous écoutez le Serment d'Hippocrate, un podcast où l'on parle des choses qui affectent notre santé mais ne se trouvent pas en pharmacie. Ici, on s'intéresse à l'alimentation, au sommeil, à la méditation ou à l'activité physique. Tout ce qui a un impact profond sur notre santé est bon à découvrir, étudier et discuter. On y trouve des médecins, des professionnels de la santé, des experts, mais aussi monsieur et madame tout le monde, parce que la santé est souvent une aventure personnelle. Bienvenue au Serment d'Hippocrate. Aujourd'hui, j'accueille Rachel Losty, psychologue clinicienne à Paris. Sa spécialité, ce sont les troubles du comportement alimentaire, qu'on va appeler TCA pendant l'épisode, parce que j'arrive pas à le dire correctement plus de trois fois, et le rapport à l'autre et à l'image. Bonjour Rachel, bienvenue.
Bonjour Ben.
Alors, je t'ai invité sur recommandation de Olivier Durie, qu'on a eu dans un épisode précédent, où on avait parlé de communauté. Et c'est vrai que dans ces sujets, on parle parfois du rapport à la nourriture, dans le collectif. Enfin, c'est des choses qui reviennent, en fait. Ça fait partie, quelque part, des choses qu'on fait ensemble. Ne dit-on pas, et je suis sûr que je vais complètement charcuter l'expression, mais que... En gros, quand tu accueilles quelqu'un chez toi, tu l'accueilles autour de la nourriture. C'est un truc ultra social, en fait, de manger avec les gens. Mais pourtant, voilà, les troubles du comportement alimentaire, c'est quelque chose qui sont de plus en plus présents, en fait, j'ai l'impression, dans notre monde. Et je pense que tu pourras nous expliquer peut-être un petit peu pourquoi. Mais je voulais qu'on démarre avec un truc déjà un peu simple, que juste nous dise qui tu es, parce que je pense que les trois bullet points que j'ai donnés vont pas forcément aider tout le monde, et du coup quel est un peu ton background sur ce sujet?
Écoute, moi je suis psychologue clinicienne, j'interviens dans une association qui accueille des personnes atteintes de troubles alimentaires. C'est un peu ce vers quoi je me spécialise, et en particulier les troubles alimentaires et le numérique. Ce sont des sujets qui m'animent autant sur le plan clinique, donc dans ma pratique, que théorique, et sur lequel j'ai écrit mes années de master, et que je prépare aussi un sujet de thèse sur cela. Et voilà, à peu près tout, je pense que...
Alors, est-ce que tu peux... Donc, comme je disais, on va souvent utiliser la terminologie donc TCA pour trouble du comportement alimentaire. Est-ce que tu peux nous parler déjà des... C'est quoi un TCA? En gros, c'est... Forcément, moi, quand on m'en parle, j'imagine tout de suite anorexie, boulimie, mais il y en a d'autres.
Alors, il y a trois grandes familles, trois grandes catégories de TCA qu'on connaît habituellement. L'anorexie, comme tu l'as dit, la boulimie et le trouble hyperphagique. Donc, l'anorexie, rapidement, c'est... anorexie mentale, c'est-à-dire l'action consciente de s'interdire de manger, avec, et aussi des personnes qui ont une représentation de leur corps qui est faussée, qui se trouvent en permanence gros, qui veulent absolument perdre du poids, jusqu'à être complètement ce qu'on appelle cachexique, c'est-à-dire où on voit la cage thoracique, être vraiment maigre. Et donc, qui s'astreignent aussi à une hygiène de vie très particulière, avec une certaine ascèse, où ils ne font pas grand-chose, ils font beaucoup de sport, c'est des gens brillants, etc. etc. Ensuite, on a la boulimie, qui est en fait une conduite anorexique la plupart du temps, mais qui lâche à un moment. Et on voit des comportements, des crises de boulimie, c'est-à-dire des comportements où la personne va se lâcher sur la nourriture et manger, jusqu'à avoir généralement mal au ventre, ou en tout cas sans aucun contrôle et sans aucune fin spécifique, juste au niveau de la frustration, et ensuite va compenser, va retourner dans cette phase d'anorexie, va faire beaucoup de sport pour compenser ces phases de crise. Et ensuite, on a l'hyperphagie, qui est en fait... Alors, dans l'hyperphagie, il y a différents types de choses. Il y a la boulimie dite pure, c'est-à-dire juste des moments où la personne va faire des crises de boulimie, ou à manger jusqu'à avoir mal au ventre, généralement c'est ça, et voilà, sauf qu'elle va pas compenser, elle va juste rester comme ça, et donc c'est pour ça généralement que c'est des personnes qui vont prendre du poids sur le long terme, parce qu'il n'y a pas de compensation. Et l'hyperphagie, un autre type d'hyperphagie, c'est aussi le fait de manger beaucoup en continu, sans forcément avoir la sensation de faim, mais voilà, avoir besoin de manger tout le temps. C'est des personnes qui ont toujours un gâteau sur elles, qui ne peuvent pas sortir de la maison sans, des choses un peu comme ça. Donc ça, c'est les grandes catégories de troubles alimentaires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un trouble alimentaire? C'est, je pense, aussi toute la question aujourd'hui. Mais c'est aussi quand l'alimentation et la question de l'alimentation commencent à prendre une place très, très importante chez la personne. C'est généralement des gens qui sont obsédés par l'alimentation et le corps, qui ne pensent qu'à ça et qui, ça va envahir tout l'espace de... C'est-à-dire que ça va s'empêcher, ça va envahir leur espace social, elles vont moins sortir, moins manger chez des amis, enfin voilà, moins prendre...
Putain, ça y est, Rachel, t'es en train de me diagnostiquer, là. J'ai l'impression que tu décris ma vie, c'est affreux. Je me dis, merde, moi aussi, j'en ai un.
Et en fait, voilà, ça prend une proportion... Enfin, c'est disproportionné.
Bien sûr.
Et ça emmène généralement des affects assez douloureux, de culpabilité, de honte. Mmh. Enfin, ça, c'est tout ça aussi qui est accompagné par ça. Et aussi, un rapport à l'idéal vraiment très, très fort. Mmh. Et donc, ce que ça entraîne.
Alors, ce que j'entends dans l'explication, déjà parce que je pense que c'est des troubles dont on parle beaucoup, mais on en... Je sais pas, j'imagine qu'on doit peut-être mal en parler, parce que l'image que j'en ai, en dehors de ma connaissance que j'ai développée professionnellement, tu vois, juste mon image de personne lambda de ces troubles, c'est que l'anorexie, c'est je mange pas. Mmh. Point. Non, mais pas plus. Hein. C'est genre je mange pas parce que je veux maigrir. Et la boulimie, c'est je mange mais je me fais vomir. Et l'hyperphagie, c'est du coup plutôt le fait de n'avoir juste aucun contrôle. Enfin, et du coup, tu dirais que l'anorexie, ça serait et en plus, enfin, je pense que ta définition était peut-être du coup m'a fait penser à ça. Mais l'anorexie, en fait, c'est un hyper contrôle. La boulimie, c'est justement donc comme tu disais, ça peut être cet hyper contrôle qui déraille, mais ou alors tout simplement le fait que t'as des espèces d'actions. Des crises en fait qui sont du coup contrecarrées avec des actions compensatoires qui peuvent être extrêmes comme se faire vomir par exemple et l'hyperphagie en fait c'est là pour le coup on a plus d'actions compensatoires quoi c'est ça en très grosse maille
tout à fait vraiment okay. Tout à fait
ok donc si on devait expliquer un peu ce qui est à la racine de ces trois grands de ces TCA très connus, qu'est-ce qu'on trouve en fait comme contexte, enfin c'est quoi un peu les points communs entre tout ça, parce que tu vois certes des choses qui sont proches, enfin tout est lié à l'alimentation, mais si tu es obsédé par ton image, est-ce que tu peux quand même te retrouver en hyperphagie, enfin j'aurais tendance à penser que oui pourquoi pas, mais enfin comment est-ce que tu te retrouves d'un côté du spectre et plutôt de l'autre, en fait ?
Alors ça, c'est une très bonne question. Et en fait, je ne peux pas trop y répondre comme ça. C'est parce que ça dépend des gens. Et ça D'accord. dépend de leur histoire. Alors, il y a des études qui sont sorties, statistiques, etc. etc. mais bon, moi, j'évite trop de m'y attarder parce que ça m'empêche après d'entendre un peu l'histoire qui se passe derrière ces troubles. Je vais peut-être donner des petits exemples pour un peu me faire comprendre.
Ouais, vas-y.
J'ai suivi l'année dernière une jeune femme qui souffrait d'hyperphagie, c'est le mot. Mais en réalité, mm-hmm. qu'est-ce que c'était que cette hyperphagie ? C'était, en fait, à chaque fois que sa mère l'appelait, après qu'elle raccroche, elle se sentait mal et elle avait besoin de manger. D'accord. Et beaucoup manger, et en particulier des petits gâteaux. Des petites pâtisseries.
D'accord.
Parce que, en fait, c'était. C'est toujours lié à un contexte. C'est-à-dire que les personnes qui ont un trouble alimentaire, ça dépend, mais généralement, il y a toujours une histoire derrière et c'est jamais n'importe quel aliment. Et du coup, ça. Et dans n'importe quelle situation non plus, et avec n'importe qui, etc. Et en fait, il s'avère, au fur et à mesure des séances et. Du travail, que sa grand-mère était pâtissière, sa grand-mère, donc la mère de sa mère, était mmh. pâtissière, et qu'elle se souvient que son premier mensonge, c'était lorsqu'elle était enfant, et qu'elle ne savait pas pourquoi, mais elle avait l'impression qu'elle n'avait pas le droit de manger ses petits gâteaux. Sa grand-mère arrivait, et en fait, elle amenait les petits gâteaux qui restaient de sa boutique, etc., et elle se disait, non, je n'ai pas le droit d'en manger, et donc elle allait en voler quelques-uns pour les manger tranquille. dans son coin. Et ensuite, disait à tout le monde, non, je ne les ai pas mangés. C'était son premier mensonge. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est
original.
Que... très mignon aussi, mais c'est que le mensonge chez l'enfant, c'est aussi, c'est un moment où il s'affirme. Et il affirme qu'il a un espace pour lui et que l'autre n'y a pas sa place.
Ouais.
Et en fait, il s'avère que cette mère, qu'elle trouvait trop possessive, trop présente, la seule façon qu'elle avait de contrecarrer cette omniprésence de sa mère, c'était par manger des petits gâteaux, parce qu'en fait, ça lui rappelait inconsciemment ce premier mensonge, et qu'en fait, c'était une façon pour elle de récupérer son espace après. Quoi.
Ouais.
Donc, par exemple, ça, c'est un exemple de comment on peut comprendre que cette personne, après, elle se jetait sur la nourriture et que voilà. Ensuite, je trouve qu'il y a un autre élément que je voulais souligner dans ce que tu as dit tout à l'heure, c'est la question du contrôle. Mmh. Et en réalité, on peut pas. Enfin, il y a quelque chose, je trouve, qui est plus au niveau existentiel, c'est qu'on peut pas tout contrôler. Et généralement, plus on contrôle, moins ça fonctionne. Et je trouve que c'est ça ce que les troubles alimentaires, en particulier l'anorexie et la boulimie, viennent nous enseigner, c'est que ça fonctionne pas. C'est bien sûr que c'est les anorexiques, elles sont dans un hyper contrôle. Enfin, elles, parce que généralement c'est des femmes, 9 fois sur 10, mais c'est des personnes qui sont dans un contrôle total, etc., etc. Mais finalement, il y a plein d'aspects de leur vie qui leur échappent complètement, et c'est peut-être parce que ces aspects-là leur échappent et qu'elles ne supportent pas, qu'elles vont aller contrôler quelque chose, c'est-à-dire l'alimentation.
Ouais.
Et c'est justement cet équilibre et cette réflexion sur la place du contrôle dans la vie qui, je trouve, est vachement amenée par les troubles alimentaires, pathologiques, je veux dire. Contrairement aux hyperphagiques qui n'ont aucun contrôle, mais c'est presque le contraire opposé, c'est-à-dire qu'elles font même pas attention à ce qu'elles mangent.
Ouais.
Généralement, c'est personne-là. Donc, c'est une question d'équilibre, en fait, je trouve.
Il y a un truc que je vois dans ma propre pratique, parce que du coup, je me retrouve, parce que je traite régulièrement avec des gens qui souffrent de différents problèmes de santé, et beaucoup sont liés à l'alimentation, mais pas tous. Donc, je vois des gens qui sont passés, en tout cas dans leur vie, par une des trois. D'accord ? Ou qui y sont toujours. Et ce que je vois, c'est que... Alors oui, souvent, il y a un contexte psychologique qui fait que tu as développé en fait une obsession. Quand je dis contexte psychologique, en fait, ça paraît très clinique comme truc, c'est plus ça va pas, quoi. Tu vois, c'est tout. C'est ça le contexte psychologique. C'est ça va pas. Voilà. Dans ta vie, ça va pas. Et c'est peu importe la raison, c'est juste ça va pas. Tu te sens pas bien. Et sans chercher à diagnostiquer un truc chez les gens, tu vois. Par contre, ce que j'observe, et ça c'est purement un truc d'observation, c'est que assez souvent, même si c'est des troubles mineurs ou en tout cas des débuts de troubles, c'est que c'est vachement lié aussi à ce que les gens mettent dans leur assiette. C'est-à-dire que, je m'explique, hein. Et plus sur les sujets de boulimie et d'hyperphagie, et surtout d'hyperphagie même, c'est typiquement lorsqu'on est sur des aliments qui génèrent des grosses productions d'insuline, donc par exemple, les glucides génèrent une production d'insuline, et lorsque tu es exposé en fait à une grosse production d'insuline pendant des années et des années, en plus tu développes une résistance à l'insuline, donc tu es obligé d'en produire de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Le truc, c'est que l'insuline, elle a aussi un effet sur d'autres hormones, parce qu'elle inhibe la réponse de l'hormone de la satiété. Et donc, non seulement... En fait, c'est un engrenage, c'est une espèce de spirale infernale, c'est-à-dire que à chaque fois que tu vas manger, tu vas inhiber ta satiété. Si derrière, en plus, psychologiquement, tu essayes de compenser un truc, à chaque fois que tu vas manger, tu vas quasiment annuler ta sensation de satiété. Je pense que juste le meilleur exemple pour expliquer ça, c'est que... Et j'adore pouvoir parler de ça, c'est que les mangeurs professionnels, d'accord, les gens qui mangent de manière compétitive, on en a tous déjà au moins entendu parler une fois, c'est les gens qui vont s'enfiler genre 75 côtes de bœuf. En gros, le principe de ce sport, ou de cette activité en tout cas, c'est de manger le plus vite possible avant que la satiété se déclenche. D'accord ? Donc c'est la leptine. Donc, avant que la satiété se déclenche. Donc, tu cherches, en fait, à manger avant que ton corps puisse réagir et dire stop. Et en général, ce qui se passe, et j'ai tombé sur des témoignages là-dessus, je trouvais ça dingue, ce qu'ils font lorsque parfois ils se ratent. Tu sais, ils n'arrivent pas à consommer ce qu'ils avaient, ce qu'ils voulaient en tout cas, à temps. Mmh. Et bah, pour relancer la machine, ils mangent par exemple des frites qui sont extrêmement... Les frites, c'est beaucoup, beaucoup de glucides. Hein. Les gens ne se rendent pas compte. En général, on pense que c'est salé, mais en gros, faut voir ça comme... comme une choupe à choupe salée, quoi. Tu vois, enfin, c'est juste avec un peu de sel dessus, quoi. Mais en fait, c'est énormément de glucides. J'aurais voulu manger des frites parce que c'est une réponse d'insuline assez importante. Et donc, en fait, ça va couper leur sensation de faim pour qu'ils arrivent à finir ce qu'ils essayaient de manger. Ou sinon, une gorgée de coca ou un truc comme ça. Et donc, bref, tout ça pour dire, un gros aparté, tout ça pour dire que dans les situations plutôt de l'hyperphagie, je pense aussi que ce que tu mets dans ton assiette, ou ce que tu mets dans ta bouche d'ailleurs, parce que comme tu disais, c'est les gens qui se baladent avec des gâteaux parfois, tu vois, enfin, mais ce que tu manges en fait peut aussi entraîner le truc, quoi. C'est pas juste si tu as une alimentation qui est complètement bancale en fait, par rapport à, et qu'en plus de ça, tu as une situation psychologique qui fait que tu vas te tourner vers l'hyperphagie, c'est vraiment la spirale infernale parce qu'en fait, tu vas alimenter le truc, quoi. Au sens littéral et figuratif du terme.
C'est vrai que c'est
donc, mais par contre, dans les situations d'anorexie, cette notion de privation, je pense que les gens ne se rendent peut-être pas compte, et du coup, je prends la peine de faire la petite précision, mais, et ensuite, je veux que tu nous en parles un petit peu plus, mais le fait de ne pas manger, ça ne fait pas juste maigrir, en fait. C'est-à-dire que ne pas manger, c'est aussi généralement manquer de nutriments, et de micronutriments, donc c'est des gens qui vont manquer, par exemple, qui vont manquer d'apport de minéraux, qui vont manquer, qui vont pas juste manquer de calories, il va manquer en fait les bases du bon fonctionnement du corps, donc certes, ils vont avoir tendance à maigrir, mais ils vont perdre en densité osseuse, ils vont perdre en masse musculaire, et on peut se dire, l'obsession se fait sur le poids et sur le physique, mais en fait il y a un vrai truc de densité osseuse, quoi. Enfin, c'est un coup à se casser un os parce qu'on a raté une marche devant l'immeuble, quoi, et ou qu'on est descendu un peu vite d'un trottoir. Enfin, il peut y avoir des conséquences graves à ce genre de choses, même finalement dans une anorexie, on va dire, peu développée, je sais pas si c'est le bon terme,
modérée, enfin,
ouais, voilà. Juste parce qu'en fait, si tu prolonges ça sur suffisamment d'années, tu peux avoir des problèmes de santé majeurs, même si tu n'es pas filiforme, comme on imagine souvent, je pense. Même à des degrés plus modérés d'un point de vue physique, si ce trouble persiste, en fait, il y a de vraies conséquences sur ta santé. Et du coup, je voulais que tu nous parles un petit peu, peut-être essayer d'expliquer un petit peu à quoi ça ressemble, en fait, l'anorexie, par exemple, chez quelqu'un, ou la boulimie, et déjà, tu nous donnes un bon exemple pour l'hyperphagie. Mais peut-être un cas patient dont tu peux nous parler pour illustrer un petit peu à quoi ça ressemble.
Oui, déjà, je voulais juste revenir sur la question de glucides.
Ouais.
Où, moi, je ne suis pas du tout nutritionniste ni diététicienne, ça, c'est pas,
moi
c'est pas mon rayon. Mais ce que j'ai remarqué, c'est vrai que diminuer l'apport de glucides journaliers chez les gens généralement boulimiques aidait à réduire leur crise.
Ouais.
Et qu'il y avait moins de crises à ce moment-là, etc. Et du coup, moi, je me suis juste renseignée comme l'amatrice que je suis sur ce sujet. Et il s'avère aussi que le sucre influe sur la production de sérotonine, qui est, il me semble, une hormone antidépressive.
Exactement, ouais.
Et donc, je ne sais pas s'il y a l'œuf ou la poule. Enfin, je ne sais pas c'est la réponse de qu'est-ce qui provoque quoi et dans quel sens. Mais en tout cas, je trouve ça quand même intéressant de voir comment l'alimentation et le recours à l'alimentation comme une sorte de médicament, finalement, vient essayer de réparer quelque chose d'un peu plus profond. Moi, je pense quand même... grossièrement, on dirait la dépression, mais pas forcément que une question de dépression, mais juste... une humeur qui n'est pas au top, quand justement, si tu disais le contexte psychologique, quand ça ne va pas, quoi, tout simplement.
Ouais.
Et quand à ce moment-là, le gâteau, il vient comme une solution, et ensuite, ça ne s'arrête pas parce que l'insuline n'arrive pas, etc. etc. Mais aussi parce que c'est jamais assez, parce que ce n'est pas la bonne réponse aussi. Ce n'est pas en mangeant qu'on va se sentir mieux. Alors, et donc, ça, c'était le premier point. Et ensuite, pour revenir à l'anorexie ou la boulimie, J'ai un exemple d'une personne boulimique, qui n'est plus trop maintenant d'ailleurs, tant mieux.
Pour les rendez-vous avec Rachel, rendez-vous à la fin de l'épisode.
qui du coup, en fait, faisait des crises particulièrement. Donc, elle avait une obsession pour la nourriture saine, ce qu'on appelle vulgairement l'orthorexie. Enfin, pas vulgairement maintenant scientifiquement, mais l'orthorexie, c'est-à-dire, voilà, il fallait pas. Elle faisait très attention à tout ce qu'elle mangeait, etc. L'apport en nutriments, ceci, en cela, mais peut-être un peu trop.
C'est quoi, elle mesurait tout, c'est ça ou...
Ça arrive souvent, oui. Dans anorexie, boulimie, c'est vraiment toutes les calories. C'est, tu sais, le petit encart derrière les aliments, sur les boîtes d'aliments.
L'apport nutritionnel.
L'apport nutritionnel, ça, c'était super calé sur la question.
Et c'est bien d'être calé dessus, par contre, si ça... Oui.
Il faut, voilà,
c'est aussi, faut aussi savoir le naviguer d'ailleurs, parce que ça, c'est un encart qui est aussi rempli de conneries, enfin de conneries, d'informations qui peuvent te lier en erreur. Si tu commences à obséder sur les calories et que tu comprends pas qu'une calorie de glucidique et une calorie lipidique, ça n'a rien à voir, du coup, tu te plantes complètement en fait.
Ouais. Ouais, y a un peu cette question des chiffres qu'on retrouve souvent chez les TCA, mais ça, je ne suis pas assez calée sur le sujet, je trouve ça fascinant, mais je ne pourrais pas en dire plus. Mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'il y a ce truc-là avec les calories qui compte beaucoup, alors que les calories, c'est une production d'énergie, pas tant une production de graisse. Enfin,
c'est ça. C'est là qu'il y a la confusion, en tout cas.
Oui, c'est ça. C'est que la calorie, c'est quand on comprend qu'on utilise aussi le mot calorie pour le chauffage, à ce moment-là, ça remet un peu les choses dans le contexte, dans le sens où, en fait, c'est une question de production de chaleur aussi et d'énergie. Enfin, bon. Mais ça, de toutes les façons, je crois que dans le cas de la pathologie, ça n'intéresse pas énormément les gens, dans le sens où il y a aussi le fait de contrôler et aussi d'avoir un truc avec les chiffres. Il faut pas atteindre un certain chiffre, le poids, mais l'IMC, mais aussi l'apport calorique par jour, etc. Ça, c'est plus du côté de l'anorexie. Et donc, je reviens sur cette dame qui était boulimique et qui faisait des crises de boulimie le soir particulièrement. Alors c'est encore un exemple. Enfin là c'est un exemple qui n'est pas avec du sucre parce que elle adorait manger beaucoup beaucoup de fromage. Et le soir elle se mettait devant la télé et puis tac ça arrivait et là elle mangeait du fromage comme pas possible. Et ensuite elle se sentait mal toute la nuit. Et le lendemain matin je fais un régime à fond. Hop elle se restreignait et c'est parti quoi.
C'est un truc commun d'ailleurs le coup du fromage. Moi je le vois beaucoup. Les gens qui cherchent pour des raisons de perte de poids, par exemple à supprimer le sucre, souvent se rabattent sur le fromage. Et un truc qu'on oublie, c'est qu'en fait, t'as quand même du lactose dans le fromage, et le lactose, c'est du sucre. Et en fait, c'est une espèce de combinaison magique de lipides et de sucre. Il n'y en a pas tant que ça, attention, c'est pas non plus des quantités phénoménales, mais il y en a, de manière non négligeable. Et du coup, quand tu t'empiffres de fromage, en fait, mais mine de rien, tu peux, selon les fromages que tu choisis, parce que tous ne se valent pas, tu peux te retrouver finalement à manger pas mal de glucides. Et en plus, tu as tous les problèmes d'inflammation liés aux protéines de lait qui peuvent être différents. Ça, c'est tout un débat, mais il y a un épisode à part entière. Mais donc, en fait, ça devient ultra fourbe parce que, et en plus, c'est ultra calorique. Parce qu'il ne faut pas oublier que le produit de base, c'est un truc pour faire pousser des êtres vivants quand même. Donc, tu vois, c'est de l'engrais à être vivant quand même, le produit de base. Donc, inutile de dire que c'est quand même hyper calorique. Donc, forcément, ça fait mal, ça fait mal si tu fais des crises là-dessus. Et ça, je le vois tout le temps. Vraiment, je te jure, il y a deux trucs sur lesquels je vois les gens complètement partir en vrille. Deux trucs. C'est les deux qui reviennent quasiment tout le temps. C'est le chocolat, même très peu sucré, on parle du 90%, 99% ou même le 100%, où il dérape complètement et il s'enfile genre des tablettes entières, même de 100%. Et du coup, c'est cet hyper rapport calorique. Et il est encore plus commun, le fromage.
Ah, c'est intéressant. Parce que le chocolat est aussi connu pour être un antidépresseur naturel.
Ouais, sauf que quand tu t'enfiles trois tablettes et que tu penses que du coup t'es qu'une grosse merde parce que t'as bouffé trois tablettes le soir, là, niveau dépression, t'es pas au top.
Oui, c'est clair. En tout cas, dépréciation de soi, c'est clair qu'après, ça vient directement comme un boomerang. Et, Et c'est aussi excuse-moi,
du coup, on a dévié de ce que tu
dis. Non, mais c'est aussi le fait de ne pas avoir le... Ça rejoint un peu ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir le contrôle sur la situation. Parce que c'est des moments où, en tout cas, pour cette personne-là, où elle ne répondait plus d'elle-même quand même. Hein, c'était presque un état de transe. Donc tout de suite, d'un coup, il y a un truc qui switch et c'est que la nourriture et il n'y a que ça. Et dans ces moments-là, cette personne n'était accessible à rien du tout. Enfin, plus personne ne pouvait lui parler. Ouais. Il n'y avait que elle et son fromage. Et des fois, le chocolat.
Ouais.
Et ce n'était pas n'importe quel fromage. Et donc, encore une fois, je ramène une histoire, mais parce que c'était aussi une histoire en lien avec sa mère, une fois de plus. Mais où, quand elle était enfant, sa mère mettait tout le temps à table du fromage. Tout en disant « Ah, oh, il ne faudrait pas que j'en mange, ça fait grossir », mais elle le mettait à table. Et en fait, elle racontait que quand elle était petite, elle ne comprenait pas cette contradiction chez sa mère.
Ouais.
Pourquoi tu mets du fromage à table alors que ça fait grossir ?
Alors que ce n'est pas bon, parce que c'est surtout ça le message. Ouais.
Et que tu t'en plains, ouais, c'est ça, que ce n'est pas bon pour toi et que ce n'est pas bon pour les gens, et tu t'en plains et tu mets le sur la table. Et à quel point, en fait, il y avait aussi toute une question de dépression maternelle derrière qui se faisait sentir, qui était un peu... condensé dans ce moment de la table et l'impuissance qu'elle ressentait en tant qu'enfant face à cette plainte maternelle et à cette dépression qu'elle ne comprenait pas, tout simplement. Quoi.
Je suis obligé de te demander, mais c'était quel fromage ? Non, mais j'ai envie de savoir.
c'était des fromages style comté,
genre les pâtes d'Ile.
Ouais.
Ok.
Voilà. Et pourquoi il y a un truc spécial avec ça niveau nutritionnel
Oui et non. En fait, les fromages à pâte dure, qui sont généralement des fromages qui vont même, du coup, vieillir beaucoup plus. Hein, tu trouves pas de camembert de 24 mois, tu vois. Enfin, si, mais du coup, on a plutôt tendance à les jeter, ceux-là. Mais c'est des fromages, en fait, qui auront... Je vais simplifier un peu l'explication, qui auront fermenté plus longtemps. D'accord. En gros, les bactéries auront agi plus longtemps. Les bactéries, elles mangent quoi ? Elles mangent du glucose. Donc, du coup, elles mangent le lactose. Donc, en fait, tu as moins de lactose dans les pâtes dures.
D'accord.
Alors, attention, hein, je veux dire, en gros, l'idée, c'est que passer, j'ai plus les chiffres, mais c'est genre 8-10 mois. 8-10 mois, t'as des traces. Mais par contre, t'as pourtant des fromages qui ne sont pas des fromages à pâte dure, qui, juste parce que le processus de fermentation est important, auront aussi seulement des traces de lactose, tu vois. Donc, ce n'est pas non plus une règle universelle, mais c'est un peu ceux vers lesquels on oriente les gens quand ils cherchent vraiment à faire un sevrage du sucre. Leur dit plutôt les fromages à pâte dure, mais le truc, c'est que les fromages à pâte dure, c'est bien, mais si c'est pour que tu t'enfiles 4 morceaux ou 8 morceaux de comté tous les soirs, du coup, c'est un faux ami quelque part. Tu vois, donc c'est juste que les gens sont là, je peux pas vivre sans fromage, et puis ils disent, mais je peux pas vivre sans pain non plus. Et vu que tu sais, ils mangent pas de pain, on dit, tu peux essayer du coup, peut-être qu'est-ce que je vais mettre avec mon fromage, tu vois. Tu leur dis, les fromages à pâte dure, peut-être du coup, ça peut être une bonne option parce que on n'est pas obligé de les manger. Enfin, c'est les fromages qui sont plus agréables, peut-être à manger sans pain, tu vois. On a tendance à les tourner vers ça, mais ça peut aussi s'avérer être un piège. Donc voilà, j'étais juste curieux parce que j'aime bien le fromage.
Oui, d'accord, c'est intéressant. Parce que de toute façon, c'est aussi la question de la mesure. Et, et dans le cas de cette personne, c'était des crises. Du coup, là, justement, c'était la démesure totale. Et quelque part, dans son hygiène de vie, enfin, j'aime pas trop parler comme ça, mais dans sa vie en général, ça l'a sauvé un petit peu, quoi. C'était le moment où finalement, elle pouvait souffler. Parce que sinon, tout était... très contrôlée, elle avait une énorme pression sur elle-même, aussi un regard sur elle-même très, très dévalorisant. Et en même temps, c'était double, et des fois, elle était un peu mégalo, mais en tout cas, voilà, c'était pour cette histoire de boulimie. Et l'anorexie, j'ai moins d'histoires d'anorexie grave, parce que dans l'association dans laquelle j'interviens, on reçoit moins, sachant que c'est pas adapté, et généralement, c'est des... Comme le pronostic vital est engagé, voilà, c'est souvent des prises en charge hospitalières qu'il leur faut, enfin en tout cas psychiatrique, enfin voilà, pour éviter quand même.
Ouais.
Mais ce qui est intéressant dans l'anorexie, enfin, c'est qu'il y a vraiment quelque part ce plaisir à ne pas manger. Et en fait, c'est un triomphe sur la faim.
Ouais, d'accord. Mais en
il y a
fait,
vraiment, c'est la toute puissance de l'esprit sur le corps, en fait.
Ouais.
La personne anorexique, généralement, enfin, il y a quelque part une volonté de n'être qu'un pur esprit. Et je dis pur esprit dans le même, parce qu'il y a aussi cette idée de pureté, de propre. Enfin, voilà.
C'est... Ouais. C'est super intéressant que tu aies pris cet exemple-là, en fait, parce que une pratique comme le jeûne, par exemple.
Voilà, j'allais en parler.
Le jeûne, c'est une pratique de santé, vraiment. Enfin, et c'est quelque chose qui est, enfin, on va dire, qui est super safe. Tu vois, enfin, c'est pas dangereux. C'est-à-dire que mais c'est l'idée que tu peux, t'es pas obligé de manger tout le temps, quoi. Tu vois, enfin, tu peux facilement sauter un repas, deux repas. On parle dans des situations où t'es pas en train de prendre un traitement. Hein, je parle. Si t'es en bonne santé, et quand je dis en bonne santé, c'est que t'es pas malade ou que t'attends de maladie chronique en train de suivre un traitement médicamenteux. Tu peux, a priori, tu peux très bien ne pas manger une journée, ou deux, ou trois, ou quatre. Fin, c'est... Mm. Et tant que tu as un apport en fait en micronutriments suffisant, typiquement les minéraux, et que tu bois de l'eau, pas de problème, quoi. Enfin, il va rien t'arriver. Et effectivement, il y a un truc, cette espèce de barrière de la faim. Il y a vraiment ce truc-là, quoi. La première fois que tu le fais, l'heure du repas arrive, et dans ta tête, tu penses qu'à ça, quoi. Tu obsèdes sur ce repas parce que toute ta vie, à midi, midi et demi, 13h, tu as mangé, quoi. Et là, ça arrive et tu ne manges pas. Et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, la faim, elle s'en va. Et là, tu as vraiment une victoire, en fait. Tu dis, en fait, j'ai une volonté. Mais c'est sûr que le fait que tu l'aies mis dans ce sens-là, tu te dis, attends, donc l'anorexie, c'est le jeûne qui va trop loin. Parce que ce n'est pas vraiment ça, en fait. C'est beaucoup plus... Fin...
Bien sûr qu'il y a, c'est, ouais. C'est tout un ensemble de signes, etc., etc., et toute une, enfin, c'est quand même beaucoup plus, voilà, mais il y a vraiment, enfin, ça me rappelle...
Je comprends la sensation de plaisir, en tout cas, ça, c'est un truc, tu vois, enfin, ce truc de, t'as contrôlé la faim, tu vois, c'est...
Bah, le premier besoin, enfin, la première chose qui arrive dans la vie de chaque être humain, la faim, quand on est bébé, quoi, et du coup, il y a vraiment, enfin, ça, c'est pour ça que dans la notion de trouble alimentaire, je trouve que c'est surtout parce qu'elle est très présente de nos jours dans notre société, dans ce que ça touche au corps, à l'image, à l'alimentation. On voit vraiment ce que Georges Canguilhem appelait, avait toute sa réflexion, ce philosophe, sur le normal et le pathologique, et comment le pathologique est en fait une déviation quantitative de la normale.
Ouais.
Et qu'on peut quand même, il y a un psychanalyste qui a écrit sur l'ascèse anorexique, l'ascèse mystique et je crois que c'est tout, enfin bref, qui parle de ça justement, de ce comment il fait des parallèles sur le jeûne anorexique, le jeûne religieux et aussi je crois il parle du jeûne
thérapeutique
entre guillemets, ouais, si je puis dire, et comment on peut voir des points communs sans forcément qu'ils soient superposables et que ça soit la même chose, hein. Mais comment il y a aussi cette réflexion, cette idée de purifier, etc., qui est derrière.
D'ailleurs, tu viens de me faire penser à un truc, mais je m'étais intéressé aux jeunes en partie parce que je voulais faire venir quelqu'un sur l'émission pour en parler. Bref, enfin, j'ai parlé d'histoire, mais et je voulais qu'un médecin vienne en parler. Et on m'a à peu près dit texto qu'en France, un médecin ne peut pas te... Enfin, c'est peut-être faux, hein, mais c'est ce qu'on m'a dit. Qu'un médecin ne peut pas te prescrire, ou en tout cas t'indiquer de jeûner. Et j'étais en train de me dire, mais est-ce que ça n'aurait pas tout simplement un rapport avec le fait que... En fait, je pense que la majorité de la documentation qu'on doit avoir autour du jeûne, en France en tout cas, parce que je sais que d'autres pays en tout cas n'ont pas le même regard sur le truc, mais c'est peut-être qu'on parle beaucoup en fait finalement du jeûne anorexique, et que du coup on regarde le jeûne en deux, enfin c'est à dire que le jeûne thérapeutique sera à ma gauche, en fait je regarde à droite, quoi. Et du coup effectivement je vois même pas que ça peut aussi être un outil de thérapie pour certaines personnes, et je le regarde uniquement comme une pathologie quelque part, parce que on parle majoritairement peut-être du jeûne anorexique, enfin je sais qu'en tout cas à une époque j'avais l'impression qu'on parlait d'anorexie mais tous les deux jours, quoi. Vraiment, j'ai l'impression que quand j'étais... Je crois que quand j'étais ado,
ouais.
Et je ne vais pas donner mon âge, mais quand j'étais ado, en tout cas, quelque part dans les années 90, j'ai l'impression que dans les années 90, c'était tous les deux jours, on nous parlait d'anorexique, et quelque part, maintenant, j'ai l'impression que c'est moins médiatisé, en fait. Bah, et on a d'autres trucs, on a des nouveaux troubles qui sont, c'est des troubles 2.0, c'est ça?
Bah, en fait, il y a tout un contexte social aussi qu'il faut rattacher à ça. Dans les années 90, c'était la mode de l'héroïne, l'héroïne mon héroïne. On avait aussi toute la, enfin, c'était le côté mannequin décharné qui était vachement mis sur le devant de la scène. Et aussi, tu le pointes, enfin, l'adolescence, qui est généralement le moment où ces troubles alimentaires se déclenchent. Parce que justement, il y a une prégnance de la place du corps, du lien, enfin, de la relation que la personne entretient avec son corps, qui change, qu'il entretient avec les autres, donc à travers aussi le repas, la famille, etc., etc. Toutes ces choses-là qui commencent à flamber un peu au moment de l'adolescence, et c'est là où on voit généralement éclore ce genre de troubles. Donc, il y a à la fois, je pense, peut-être plus de... Quand on est ado, on en entend souvent parler, parce qu'il y a plus de gens autour de soi qui peuvent déclencher ces troubles. Enfin, moi aussi, dans mon expérience personnelle, quand j'étais ado, j'ai vu pas mal de gens, j'en entendais vraiment beaucoup parler, je connaissais pas mal de gens qui avaient ça. Et aussi parce que dans les années 90, voilà, il y avait aussi toute cette esthétique du corps maigre qui était valorisée. Alors que maintenant, on a un peu changé, les codes de beauté ont légèrement changé. On a toujours la question du corps qui est présente, mais encore différemment. Et oui, il y a ces nouveaux troubles. Je ne sais pas si c'est nouveau, mais en tout cas, on leur a mis un mot dessus. Quoi.
Ouais, maintenant, le standard de beauté, j'ai l'impression que c'est anorexique, mais avec une énorme poitrine et un gros cul. J'ai bon ou pas? J'ai un peu l'impression que c'est ça, quand même.
C'est un sujet qui... c'est vrai qu'il y a beaucoup... un corps...
On parle des standards féminins, bien entendu. C'est messieurs, ouais. Non, je ne suis pas dire que vous devez avoir une énorme poitrine et un gros cul. Quoique, pourquoi pas. Mais faites ce que vous voulez.
Le problème, c'est qu'il y a énorme poitrine et gros fessiers sans avoir le volume, la graisse abdominale qui va avec. Il faut une taille de guêpe aussi.
Ouais.
En tout cas, peu importe quelque part, parce que peu importe le critère, le standard de beauté, bien sûr que c'est quelque chose qui...
Ouais, mais ça va influer en fait vers quoi on va se tourner, ouais, c'est ça.
Voilà, qui influence, etc. Et on le voit. Enfin, moi, je trouve qu'on le voit vraiment sur les réseaux sociaux, etc. Mais c'est aussi une façon de mettre à distance son corps quelque part et son histoire. Et le corps, notre corps, il porte notre histoire aussi. Et on n'a pas tous la même morphologie, on n'a pas tous les mêmes gènes. Et donc, on peut pas tous. En tout cas, si on prend les femmes, on peut pas toutes ressembler à ce modèle-là. D'ailleurs. Ce qui n'est pas dit et ce qui est maintenant de plus en plus décrié, c'est le rapport, l'accès à la chirurgie et toutes les petites trucs qu'on nous rajoute pour que ça fonctionne. Mais la taille de guêpe, c'est pas tout le monde qui l'a. Le fessier de cette façon, c'est pas tout le monde qui l'a. Et c'est réussir aussi à se dire, je suis tel que je suis et je ressemble pas à ça, mais ça veut pas dire que je suis pas belle ou aimable, appréciable, parce qu'il y a aussi ces questions-là qui ressortent dans le discours des personnes que je reçois autour de l'image, de l'apparence, mais j'arrive pas à avoir ces abdos-là, j'arrive pas à avoir cette forme-là, pourquoi je suis en H et je suis pas en 8, enfin des trucs comme ça. Et c'est aussi leur génétique, quoi.
Ouais, et ça, je pense que c'est un truc que... Enfin, déjà, ouais, je pense qu'aujourd'hui, et ça c'est juste mon observation, je pense que tu as à la fois une hyper-obsession du corps et en même temps, tu as une hyper-acceptation. C'est-à-dire que, je dis, la terminologie est hyper et peut-être pas bonne, mais en gros, tu as des mouvements très répandus, on va dire. Tu as beaucoup de concentration sur l'image du corps, que ce soit dans. Atteindre un idéal que de l'autre côté de la barrière, et parfois peut-être même les mêmes personnes, j'en sais rien, qui sont à la fois dans l'acceptation totale. C'est-à-dire que... et donc, on va se retrouver à dire à quelqu'un qui est véritablement en mauvaise santé, accepte-toi tel que tu es. C'est-à-dire il y a des situations de santé. Enfin, moi, je suis pour l'acceptation du corps, mais par contre, je veux dire, si on est en situation d'obésité, on n'est pas en bonne santé. C'est le point. Enfin, il y a pas de débat là-dessus. Et je ferai jamais machine arrière là-dessus, même si on a déjà essayé de me le faire dans les conversations. On est en mauvaise santé. Ça veut pas dire qu'il faut. Par contre, ça veut pas dire qu'il faut se détester. Donc, mais par contre, on ne peut pas accepter ça. Enfin, on peut pas accepter ça pour soi-même. D'un titre individuel, hein, c'est pas un truc social, le machin, tu vois. Enfin, c'est juste. Si, il faut juste pouvoir se dire, ok, j'ai un problème de santé, mais par contre, ça veut dire que je suis une merde, tu vois. Et ça aussi, c'est le truc, c'est que on associe son apparence et son regard de soi, tu vois. C'est et parce que bah on se dit, si je ressemble pas à ce que je vois dans, je sais pas, dans mes médias, dans là où je me fournis en termes de médias, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les magazines, peu importe, s'il y a encore des gens qui achètent des magazines, enfin, j'imagine. Mais le truc, c'est que c'est cette idée. Enfin, où est-ce qu'elle vient, en fait, cette idée de se dire, si je ressemble pas à machine, tu vois, on reste un peu sur le sujet des femmes, mais je pense que les mêmes choses chez l'homme sont intéressantes, mais c'est juste qu'on peut pas donner les mêmes exemples, en fait. Je pense que les hommes s'intéressent à, enfin, regardent d'autres trucs souvent.
Ouais.
Donc, mais même si quelque part c'est les mêmes schémas. Pourquoi est-ce que une femme va regarder, on va dire, la superstar et se dire, je lui ressemble pas, donc je suis une merde, tu vois. Enfin, tu vois, comment est-ce que ce schéma peut avoir lieu? Pour moi, il n'a pas de sens, en fait, parce que oui, peut-être qu'elle lui ressemble pas, mais peut-être qu'elle lui ressemble pas parce qu'elles ont pas les mêmes gènes, tu vois. Enfin, elles sont pas les mêmes personnes.
Voilà. Il y a plusieurs trucs, plusieurs éléments dans ce que tu dis. Tu l'as très bien soulevé. Enfin, je n'ai pas la réponse. Hein. J'ai juste des éléments de réponse, en tout cas, pour moi. C'est le rapport bon à l'idéal. L'idéal et comment, en fait, la confiance en soi et l'estime de soi se mesure psychiquement à travers l'écart qu'il y a entre soi et l'idéal.
Ouais.
Et donc, en fait, c'est des personnes... Enfin, les personnes qui pensent ça, je pense qu'elles ont... En tout cas, de ce que j'ai vu, elles ont un rapport à l'idéal qui est démesuré. C'est-à-dire que l'idéal, il est... Par définition, l'idéal est inatteignable. Il n'est pas là pour être atteint, l'idéal, parce qu'une fois qu'on l'atteint, qu'est-ce qui se passe, enfin, on... Mais bah, il n'est pas
on
non.
Peut juste être content.
Oui, est-ce que le désir d'aller plus loin n'est pas aussi d'un peu de manque vis-à-vis de ce qu'on aimerait être?
Bien sûr, bien sûr. Ah, non, voilà. Non, mais en fait, oui, bien sûr, c'était.
Mais il y a cette distance entre.
Je fais le difficile, mais en fait, c'est l'idée. Ouais, tu pourrais juste avoir un autre objectif quelque part, mais ouais. Il y aura toujours un idéal, en fait. C'est ça. Ah bah tiens, je suis arrivé à tel que je m'aime. Bah peut-être que je pourrais être comme je m'aime, mais être encore plus fort, tu vois, ou être encore plus balèze à tel truc. Et bah, le truc, c'est que ça peut avoir des conséquences sur ton corps.
C'est
et
ça.
Peut-être que tu vas avoir d'autres problèmes dans le processus. C'est donc ça. Oui, bien sûr, c'est l'idée de toujours avoir la poursuite de l'objectif perpétuel. Mais c'est à la fois sain et malsain.
Enfin, voilà, ça c'est ça. Il y a objectif et objectif. Il y a, bah... Si cet écart entre moi et ce que je considère comme idéal, tout en ayant suffisamment de recul vis-à-vis de cette notion aussi, hein, parce que se dire quand même, enfin, l'idéal, c'est quand même une idée plus qu'une réalité. Mm-hmm. Donc, une fois qu'on a, je pense, on a ce recul-là vis-à-vis de l'idée, on peut se dire aussi que tranquille. Et aussi, avoir une estime de soi suffisamment bonne. Pour justement se dire, bah, je m'apprécie tel que je suis, je m'accepte, et c'est pas grave si j'atteins pas tel ou tel objectif. Ouais. C'est sympathique, mais tranquille, parce que l'idéal, c'est une image, enfin, c'est pas quelque chose de tangible, enfin. Mais je pense qu'il y a de ça sur lequel on peut aussi réfléchir, et il y a aussi, enfin, est-ce que tu peux me rappeler un petit peu j'avais une autre idée en tête, mais est-ce que tu peux me rappeler ce que tu disais à propos de les superstars?
De quoi? Du fait de vouloir ressembler à la superstar, c'est ça? Et de pas juste accepter que tu as tes propres gènes?
Ah oui, c'était l'écart entre l'acceptation, la santé. Tu as soulevé tes thèmes. Qu'est-ce que c'est que le rapport à la santé?
C'est normal, je suis pas scolaire, moi, je fais tout d'un coup. Donc...
Non, mais parce qu'en fait, il y a trois gros sujets en soi. L'obésité, qui en fait pour moi est aussi un sujet qui est éminemment politique, Il y a le psychique, ouais, bien sûr, mais il y a aussi la question politique, la question du contrôle sur le corps, etc., etc., et l'acceptation d'un corps obèse, et cette sorte un peu d'hypocrisie, pour revenir sur le nom du podcast, entre bah, il faut tous s'accepter, mais en même temps, on a des idéaux de beauté qui sont telles ou telles, et on ne peut pas faire sans. Et qu'est-ce que c'est que la santé ? Et est-ce que, enfin, moi, je questionne vraiment ça. Est-ce que la santé, c'est vraiment être pas en obésité ? Bien sûr qu'il y a des choses qui disent qu'il y a des problèmes métaboliques, etc., etc. Mais après, il y a différents niveaux d'obésité. J'ai des amis qui travaillent en chirurgie bariatrique et ils ont beaucoup cette réflexion quand est-ce qu'une personne peut arriver enfin, peut se faire opérer, pour quelles raisons ?
Ouais,
est-ce qu'il y a
le seuil,
l'autisme qui est toujours une raison psychologique ? Des fois, il y a aussi des raisons sociales, métaboliques. Enfin, il y a plein d'autres trucs. C'est aussi un autre gros sujet. Pour revenir sur... je pense qu'il y a quand même... je sais pas, c'est peut-être aussi une question de libre arbitre. Est-ce que les gens... est-ce qu'on n'a pas certaines personnes obèses qui ont juste le droit d'être obèses ? Si ça leur va, et si c'est pas trop grave, si c'est pas trop... voilà. Je me pose la question.
Ouais, bah c'est, en fait, ça, c'est le truc qui est un peu touchy. C'est-à-dire que tu vas voir des gens qui vont être en situation d'obésité, ou en tout cas de surpoids important, qui ne sont... comment dire, ne sont pas dans une situation de trouble, d'accord ? C'est juste... ils vivent assez bien leur poids, s'ils n'ont pas de problème de santé majeur. Mais le truc, c'est... ok, on peut dire qu'ils n'ont pas de problème de santé majeur, mais le problème, c'est qu'à un moment ou un autre, ça va sûrement arriver. Et je pense que dans une situation sanitaire comme celle qu'on connaît aujourd'hui avec le Covid, où c'est quoi les chiffres ? Enfin, je ne vais pas décortiquer les chiffres exactement, mais de manière... on va dire démesurer la proportion des patients qui décèdent ou qui sont admis dans les unités de soins intensifs sont des gens qui souffrent de problèmes de surpoids. Et du coup, on peut dire peut-être que ces choix, et enfin, si tu vis bien avec, en fait, quelque part, ouais, tant mieux. Mais le problème, c'est que s'il y a un problème autre qui arrive, bah, il y a des chances que ça se passe très mal, en fait. Et ça, je pense que autant chacun peut faire un peu ce qu'il veut, je suis le premier à dire soyez un peu libre, quoi. Mais on peut pas non plus ne pas fournir au moins un minimum d'avertissement tout type de professionnel de santé qu'on ait, hein, que ce soit toi, par exemple, sur les sujets de psychologie, attention, ça peut être de mauvais schémas. Moi qui accompagne les gens, je sais peut-être qu'il y a de mauvaises pratiques. Un médecin généraliste devrait aussi souligner ça. Après, je pense qu'il y a une grosse différence entre chercher à expliquer aux gens qui sont dans une situation de santé dangereuse et les faire culpabiliser. Et ça, c'est deux trucs radicalement différents. C'est-à-dire que dire à quelqu'un, aujourd'hui, a priori, pas trop de problèmes. Ta glycémie est un peu élevée, mais c'est pas non plus un drame, tu vois. Enfin, par contre, si t'arrives une crasse, tu vois, ce que les aléas de la vie, machin truc, là, ça sera peut-être un énorme problème, en fait. Et ça, il faut le dire, il faut être honnête, je pense. Et peut-être qu'on le fait pas assez. Il y a trop de, c'est des sujets qui sont tellement tabous et politiques, comme tu dis, que on n'a pas forcément, on en perd l'honnêteté, en fait. On a trop d'éléments de langage. On perd un peu de franc-parler parce qu'on veut pas blesser les gens, etc. On veut pas froisser, on veut jouer un peu sur tous les tableaux en même temps. Et du coup, on en vient à des terminologies hyper spécifiques, comme en gros ce que tu décrivais. On parlait donc d'orthorexie, cette idée d'obséder en fait sur ce que tu manges. À une époque, on aurait juste parlé d'anorexie, non ? Enfin, il y avait déjà des mots, quoi, tu vois. Et on va dire. Alors, l'orthorexie, ça serait quoi ? Ça serait l'anorexie où t'es pas squelettique et admis à l'hôpital, quoi. Non,
oui et non.
Enfin, tu vois,
Oui et non, je vois ce que tu veux dire, mais...
De toute façon, moi, j'hésite pas à dire des conneries, donc... Mais enfin, c'est un peu... En caricaturant, bien sûr, hein, ça serait un peu ça, le regard du truc, quoi. Mais... Et peut-être que le fait de vouloir rendre ces conversations trop politiques se fait au détriment de la santé de beaucoup, parce qu'on veut accepter tout le monde, parce qu'on veut pas être méchant avec qui que ce soit. Et le truc, c'est qu'on n'est pas obligé d'être méchant, en fait, pour dire à quelqu'un « Attention, ça, c'est une situation de santé qui est dangereuse. Ça ne veut pas dire que tu es nul, c'est juste « Attention. »
Mais ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est la notion de culpabilité.
Ouais.
Que si on revient sur les TCA, elle est énormément présente.
Ouais.
Pour ce qui est de... Enfin, la culpabilité de ne pas réussir son objectif, de ne pas tenir le contrôle, de se laisser aller à ses bas instincts qui sont la nourriture.
Et ça, l'instinct complètement primaire de « j'ai faim, il faudrait qu'on mange ».
Bah oui, mais il y a un mythe grec, je trouve, qui est bien à réfléchir un petit peu cette notion de contrôle et d'instinct, de bas instinct. C'est le mythe de Pygmalion. Je ne sais pas si tu connais.
Mais tu vas nous l'expliquer de toute manière, donc je n'ai pas besoin de savoir.
je fais très très rapide, hein, mais en gros, Pygmalion, c'était un sculpteur et en fait, il était un peu dégoûté par la nature féminine et en fait, il était un peu misogyne, quoi. Oui, les femmes, c'est des tentatrices, qui sont perverses, etc., etc. Et donc, il voulait donner corps à son idéal féminin. C'est-à-dire une femme complètement pure, débarrassée de toute personnalité, de tout bas instinct. Et donc, il a sculpté dans l'ivoire une femme, il lui a donné un nom, il l'a appelée Galatée. Et en fait, il a commencé à se prendre d'amour pour elle, si je puis dire, parce que bon, c'est un peu spécial, c'est-à-dire qu'il a commencé à l'habiller, à lui acheter des choses, vraiment à s'occuper d'elle alors que c'était qu'une statue.
Ouais.
Parce que justement, c'était son idéal qui a pris corps d'un coup. Et jusqu'à aller supplier Vénus, enfin non, pas, du coup, c'est pas grec, c'est Aphrodite, de lui donner la vie. Mmh. Et pour continuer à s'occuper d'elle, etc. Et je trouve que, bon, il s'avère qu'après, Galatée a quitté Pygmalion une fois, parce que elle est partie avec le cyclope parce qu'il n'avait Dieu que pour elle. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais je trouve que il y a vraiment dans ce mythe-là grec le lien, je trouve qu'on peut faire entre l'idée que la pureté, les bas instincts et en fait aussi le corps féminin, parce que là je reviens sur la question tout à l'heure avec c'est généralement des femmes. Enfin, c'est généralement des femmes qui ont un trouble alimentaire, on parle souvent d'idéal féminin, donc un peu irréalisable, avec gros seins, grosses fesses, mais un ventre tout plat, et que généralement, y a aussi cette notion de se sentir mal dans sa peau sur l'identité sexuée, c'est-à-dire le fait de se sentir femme, etc., parce qu'on ne correspond pas à tel idéal, et parce que justement, on n'a pas de contrôle sur soi. Et du coup, je ne sais plus où je voulais en venir.
J'ai perdu ton fil.
J'ai perdu mon fil, mais parce que c'est Pygmalion. Et je trouve qu'on est vachement dans cette société où, et ça rejoint aussi cette histoire d'idéal, où l'extérieur, en montrant un extérieur de maîtrise, on montre qu'à l'intérieur, on peut contrôler ses bas instincts. Et le fait de manger beaucoup, ou manger tout simplement et d'y prendre du plaisir, ça peut être vu par certains comme justement un instinct, une pulsion dégradante, et quelque chose de pas très positif, parce que l'idéal aussi aujourd'hui, c'est un idéal de contrôle.
Ouais.
Sur,
et quelque part, même la terminologie que tu emploies, en fait, j'imagine que c'est quelque chose qui doit quand même revenir dans les conversations que tu as avec tes patients et tes patientes, la notion de base instinct.
Oui.
Alors qu'en fait, c'est pas bas, c'est juste, c'est un instinct, en fait.
Oui, c'est ça.
C'est soit c'en est un, soit c'en est pas un. Tu vois, il n'y en a pas qui sont bons, mauvais. Genre, tes instincts ont du sens, en fait, à la lumière de l'évolution, lorsque tu regardes pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que lorsqu'il y a du bruit, le rythme de mon cœur augmente? Bah, tout simplement parce que beaucoup de bruit, c'est potentiellement une situation dangereuse. Et donc, le rythme de mon cœur accélère et mes hormones de stress augmentent pour me préparer à une situation compliquée. Tu vois, c'est tout. Enfin, et c'est des réactions, en fait. Et ça, c'est un instinct. C'est pas ta faim quand t'as besoin de manger, parce que ton corps est en train de te dire, bah, faudrait peut-être se nourrir, tu vois. Enfin, c'est pas... Et du coup, l'idée, il n'y en a pas qui soit bas, haut, il n'y a pas de hauts instincts, tu vois. Enfin...
Bah,
alors,
en
oui,
fait...
il y a des bas instincts, il n'y a pas de hauts instincts. Ou alors, il y en a peut-être, je ne suis pas au courant.
Oui mais... et non, parce que en fait, c'est... Comment dire ? Donc, en fait, ça rejoint la question de la culpabilité, parce que c'est le jugement qu'on apporte sur une action qui entraîne après une culpabilité. Et donc, le fait de manger, si c'est considéré comme négatif, bah, s'y laisser aller, du coup, ça engendre de la culpabilité.
Ouais.
Donc oui, il y a un travail à faire sur le fait qu'il n'y a pas de bas instinct. Bon, je dis instinct, mais c'est un peu vulgaire, mais moi, je préfère parler de pulsion. Et qu'en fait,
c'est aussi
le jugement qu'on apporte à sa pulsion. Et en fait, à la vie pulsionnelle qu'on a tous en soi, et qui peut à certains moments complètement flamber, et on peut se sentir un peu débordé par quelque chose, on ne sait pas trop ce que c'est, etc. Et que si on condamne tout de suite cette pulsion, elle se transforme en autre chose, ou elle ne se laisse pas dire telle qu'elle est, et ensuite elle engendre tout un tas de trucs, etc. Et voilà. Parce que ce qui est intéressant aussi dans certains cas d'anorexie, c'est qu'en fait, c'est une réaction à un désir de manger sans s'arrêter, à un désir de gloutonnerie. Et c'est des personnes qui disent « j'ai arrêté de manger parce que je me suis dit que si je commençais à me laisser aller à manger, je n'allais jamais m'arrêter.
Ouais. »
Et donc, on voit qu'il y a tout de suite, là, c'est condamné, et hop, ça se transforme en autre chose, et ensuite, ça crée... Et donc, il y a vraiment ce jugement de valeur qu'il faut travailler aussi. Et pourquoi il est là aussi, parce qu'il a une fonction. Il n'est pas là pour rien non plus. Il y a la société, mais il y a aussi individuellement.
Il y a un truc dont on parle beaucoup depuis le début, c'est en fait le rapport à soi. On parle beaucoup du regard qu'on porte sur nous-mêmes. Mais en fait, toutes ces notions d'image de soi, elles n'ont de sens que dans la communauté. Donc, l'influence des gens autour de nous, en fait, est finalement aussi déterminante. C'est-à-dire que tous les exemples que tu as pris jusqu'ici, c'était un rapport à l'autre qui était le déclencheur. C'est aussi la manière, je pense, dont on communique à nos proches, à nos enfants, à tous les gens qui nous entourent sur ces sujets, en fait. Le mot super important à remettre, et c'est l'épisode dont on avait parlé avec Olivier, on avait un peu fait la communauté en grosse maille, mais c'est ça, en fait, c'est ton rapport à la communauté, en fait.
Ça serait intéressant, oui, parce que si on revient sur un plan strictement psychologique, ça revient un peu au tout début, au tout petit, et comment le rapport à soi se construit grâce à l'autre et grâce au rapport à l'autre. Et c'est dans les interrelations entre l'enfant et sa mère, donc comme le précisait d'ailleurs Olivier, la personne qui tient un lieu de mère, c'est-à-dire qui s'occupe du petit, comment dans ce rapport à l'autre et aussi à travers la nourriture, justement, parce que c'est une la première chose que l'enfant reçoit, c'est de la nourriture aussi. Et c'est pour ça que les troubles alimentaires aussi viennent autant parler de l'autre, parce que ça vient de vous enseigner comment le rapport à soi est fondamentalement lié aussi au rapport à l'autre. Mais il y a un moment où quand même, on en est beaucoup moins dépendant. Par exemple, si je prends l'exemple de l'adolescence, à l'adolescence, on est obsédé par l'image qu'on renvoie, le groupe, la communauté, etc., l'identité. Et ensuite, vieillir, prendre de la maturité, c'est aussi pouvoir faire la part des choses entre ce que l'on veut pour soi, ce que l'autre veut pour soi, ce que le groupe veut, etc. Et justement, réussir à composer avec tous ces désirs-là.
Je vois que toi aussi, tu dis régulièrement « maturé ». C'est une expression que je ne peux pas empêcher de placer, je sais qu'il ne faut pas, mais j'ai envie de dire « maturé ».
Mais maturé dans le sens « prendre en maturité ».
Oui, je sais. Mais... Non, mais je le fais aussi, je te rassure. Ça me fait sourire. Et du coup, ouais, cette idée de rapport à l'autre, en fait, est super importante parce que si, enfin, sans vouloir faire des généralités et au risque de faire des généralités d'ailleurs, quelque part, les troubles du comportement alimentaire et sûrement d'autres types de troubles, mais enfin, c'est le sujet du jour. N'aurait peut-être pas lieu en fait dans un contexte d'acceptation autour de l'alimentation, c'est-à-dire que peut-être qu'ils auraient du mal à germer dans un environnement. Enfin, c'est ce que j'imagine. Après, je vis peut-être dans un monde de bisounours, mais je me dis que si tu ne faisais pas culpabiliser les gens autour de la nourriture pendant leur enfance, pendant leur développement, est-ce que ils seraient quand même à risque de développer un trouble du comportement alimentaire?
Alors, je peux pas répondre.
Merde.
Enfin, je peux donner. Enfin, je peux pas répondre oui ou non parce que c'est un énorme sujet.
Bon,
en
ça
tout
va
cas,
alors.
Ce que je peux dire, c'est que ce que je peux dire, en tout cas, c'est que bien sûr que les symptômes psychiques, enfin la souffrance psychique, trouvent ses moyens d'expression dans la société. Mais il n'y a pas que ça. Je pense.
Ouais. Tu penses que.
Je ne sais pas si expérience est possible, hein, mais. Faire une expérience à quelqu'un qui est. Un être humain en dehors de la société, ça n'existe pas. Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que si on mettait un peu moins le focus, enfin, j'ai l'impression en tout cas, si on mettait un peu moins le focus autour de ça, peut-être qu'on serait tous un peu plus détendus sur la question, quoi.
Ouais, et puis je pense aussi que, enfin, c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles d'ailleurs tu trouves des. En tout cas, historiquement, parce que je pense que, et ça tu pourras peut-être commenter là-dessus, mais j'ai l'impression que de manière plus moderne, on voit beaucoup plus de troubles du comportement alimentaire chez les hommes que ça n'a peut-être été par le passé. Et je pense que c'est. Pourquoi est-ce que c'est plus chez les femmes que chez les hommes dans la majorité? C'est parce qu'on en fait des tonnes sur le corps des femmes. Des tonnes, mais c'est, enfin, ouais. Je veux dire, si t'as envie de passer, allez, 5 jours à lire que des trucs de critique du corps de la femme, il y a vraiment largement de quoi t'occuper et tu vas pas avoir besoin d'aller chercher très loin. Déjà, je pense que tu peux nous ouvrir n'importe quel magazine féminin, c'est acceptez-vous, mais vous êtes grosse. Enfin, c'est quand même assez ironique. Mais et puis même, enfin, d'un point de vue sociétal. Je veux dire, entre les religions qui sont très portées sur l'image du corps de la femme, enfin, qui ont souvent quelque chose à dire sur le corps de la femme, et il y a cette notion de contrôle d'ailleurs qui fait souvent surface. C'est pour ça que j'ai utilisé l'expression du péché originel tout à l'heure, parce que je pensais un peu à ça. Mais, on en parle beaucoup, du coup, du corps de la femme et de comment il devrait être, à quoi il devrait ressembler. Et c'est sûr que si personne t'a dit que en fait les femmes c'était comme les hommes d'ailleurs et c'est aussi comme les écureuils et comme les ouistiti, il y en a différentes formes et différentes tailles et différentes, voilà, enfin bref, il y a des variations en fait, on n'est pas tous fait pareil et du coup ouais, il y a des gens que certains aiment, que beaucoup aiment plus physiquement, j'entends. Mais en fait ouais, il y aura, enfin, c'est pas parce que t'as plus de gens qui regardent cette personne là qu'ils vont trouver que l'autre est pas bien, tu vois. C'est ça aussi, enfin, mais ouais, ce truc de complexe en fait, je pense que c'est beaucoup lié au fait qu'on obsède dessus, quoi. Enfin, sans vouloir partir dans des analyses un peu hasardeuses, hein, mais c'est juste le fait qu'on parle énormément du corps de la femme et aujourd'hui. Et quand je dis parle, c'est juste on communique dessus, parce que je dis parler, en fait, déjà, on pourrait l'écrire, et aussi, parfois, il n'y a pas de mots, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur du média visuel, mais donc on communique, en fait, sur, beaucoup plus sur le corps de la femme historiquement, et aujourd'hui, on le fait énormément sur le corps de l'homme, de plus en plus, et du coup, tu vois apparaître des schémas identiques, en fait, c'est juste que l'objectif n'est pas forcément le même, tu vois, enfin... Tu vas voir des mecs qui vont... Ça, je l'entends tout le temps chez les hommes, par exemple. J'ai envie de gagner en masse. J'ai envie de gagner en masse. Tu veux devenir bodybuilder, alors. Parce que le pratique de gagner de la masse musculaire, c'est avant tout du bodybuilding. C'est pas, c'est même pas une démarche de santé, quoi, tu vois. Mais et donc tu vois, enfin, tu vois ce genre de choses apparaître, et je pense que les, en plus, la manière dont nos sociétés occidentales sont vis-à-vis des hommes font qu'ils ont beaucoup de mal à en parler parce qu'ils ne comprennent pas forcément ce qui se passe, parce qu'il y a peut-être moins de conscience peut-être autour du sujet. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais.
La question, par exemple, de l'anorexie masculine, ouais, c'est, je n'ai pas assez de données là-dessus, honnêtement. J'en vois trop peu. Ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Hein, et moi, je ne sais pas si on en voit plus maintenant ou alors on ose plus en parler maintenant qu'avant.
Oui, il y a toujours cette question-là, en fait. Oui, c'est sûr.
Ouais. Parce que l'anorexie, par exemple, il y a des gens qui disent oui, c'est apparu il n'y a pas longtemps avec la société de consommation. Bah non, parce qu'en fait, il y a des historiens qui y sont penchés et on voit des traces d'anorexie il y a longtemps quand même.
Ouais.
Donc c'est quelque chose qui a toujours été présent. Alors peut-être que l'incidence est plus importante maintenant, mais je crois qu'on n'a pas assez d'informations pour pouvoir répondre, en tout cas scientifiquement avec des chiffres et des dates, enfin, voilà, sur cette question-là. Mais pour ce qui est du corps des femmes et pourquoi on. Actuellement, il y a des théories en psy hein, pour parler aussi de comment aussi la sexualité féminine s'édifie sur le corps comme étant en faisant partie intégrante de la sexualité féminine, tandis que l'homme, c'est quand même plus localisé.
Ouais.
Il y a aussi des théories qui parlent là-dessus. Il y en a d'autres, des psychanalystes plus féministes, par exemple, qui sont totalement contre ça et qui parlent aussi de justement de ce que je disais à propos de Pygmalion et d'une volonté machiste de contrôle sur les femmes et sur leur personnalité qui peut faire souvent peur. Voilà, donc en fait, là, c'est vrai qu'on est en train de dévier sur un sujet qui est plus au niveau des relations hommes-femmes, plus, enfin voilà,
bien sûr.
Les relations entre les genres, mais c'est intéressant parce que.
Pourquoi mais c'est là que vont naître les troubles. Donc, quelque part, on est, enfin, c'est normal qu'on en soit arrivé là à un moment.
Ouais. Et puis, moi, je sais, par exemple, j'ai vu beaucoup d'anorexie. Enfin, c'est un tout petit échantillon, donc vraiment, c'est pas représentatif. Ça n'engage que moi, je préfère le préciser. Mais j'ai vu beaucoup d'anorexie masculine chez les danseurs étoiles. Enfin, anorexie, de toute façon, chez les danseurs. Mais voilà, et donc, on a une place où le corps, quand même, il a une autre place.
Ouais, mais c'est peut-être en fait parce que le mot anorexie aussi, on le met vachement sur ce truc de chercher à perdre du poids à tout prix, et, ou en tout cas chercher à s'affiner, tu vois, enfin, cette idée d'être le moins possible. Et j'ai bien aimé l'image que tu as eue au début, de dire que c'est n'être que esprit presque, tu vois, enfin, c'est que le corps prenne le moins de place possible. Mais et pourquoi est-ce que peut-être on voit moins de l'anorexie chez les hommes? Tout simplement parce que la plupart, enfin, la façon dont nos sociétés sont structurées font que, qu'on soit d'accord ou pas avec le fait que ça ait lieu d'être, ça c'est encore autre chose, mais font que les activités sur lesquelles sont portés les hommes sont souvent incompatibles, enfin, je parle d'activités type loisirs, centres d'intérêt, qui ont appel au physique. C'est important de préciser parce que, mais ont tendance à être des activités où justement la perte de poids massive n'est pas un avantage. En revanche, les activités où ça l'est, typiquement la danse, la course à pied, le cyclisme, les cas d'anorexie ou de troubles du comportement alimentaire sont, en tout cas, j'ai l'impression qu'elles font légion maintenant. Enfin, c'est devenu tellement commun, c'est devenu beaucoup plus fréquent. Et effectivement, c'est peut-être parce qu'on juste maintenant on en parle plus. Elles ont peut-être toujours été là. Mais en tout cas, c'est sûr qu'elles existent. Enfin, tu vois, elles sont beaucoup plus présentes. Je veux dire, des bodybuilders anorexiques, on n'en connaît pas des tonnes. Des rugbymen anorexiques, un peu moins. Après, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de troubles. Tu vois, parce que c'est juste que ça ne sera pas forcément un trouble anorexique, mais ça sera peut-être un autre trouble, justement, du comportement. Et parce que, lorsqu'on parle de troubles du comportement alimentaire, on dit anorexie, boulimie, hyperphagie. J'ai une obsession du corps et une obsession absolue du corps, on va me dire quoi, que parce que je micromanage tout, j'ai quoi, j'ai de la bigorexie ou de l'orthorexie. Mais du coup c'est pas, on le catégorise pas pareil, alors que quelque part je suis en train juste d'exprimer la même chose, d'accord, qu'une femme qui est anorexique, par exemple. Imaginons, moi, hein, on peut me prendre comme exemple là-dedans, mais qui m'intéresse beaucoup, du coup, ce que fait mon corps, comment mon corps réagit avec l'effort, on pourrait dire ah, les limites de la vigorexie ou de l'orthorexie, ne suis-je pas quelque part en train de reproduire les mêmes schémas qu'une femme qui fait attention à son corps et serait à la limite, on dirait, elle est la limite de l'anorexie et, tu vois, enfin, le truc, c'est que est-ce que quelque part on n'est pas en train de faire la même chose, c'est juste qu'on l'applique différemment. Enfin, je me dis que c'est un peu les mêmes schémas quelque part.
Oui, en fait, c'est aussi. Je pense que j'ai l'impression que ce qu'on discute, c'est aussi comment le savoir psychiatrique, c'est un grand mot, mais voilà, comment le savoir psychiatrique est aussi dépendant de la société, du système dans lequel on vit. Et c'est, pour moi, c'est une vraie question, et c'est pour ça d'ailleurs que je sors un peu de ces catégories-là quand je travaille, parce que pour moi, je dis pas qu'il y en a certains, ça les rassure de savoir qu'ils ont un truc en particulier, leur dire tu as ça, tu as ci, ça les rassure, ça les fixe quelque part, mais justement ça peut les fixer quelque part et ça vient pas raconter qu'est-ce que c'est que son rapport à son corps, qu'est-ce que c'est que son rapport à son alimentation, sans partir tout de suite dans il y a ceci, il a la limite de l'orthorexie, à la limite de la bigorexie, enfin mais qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi et est-ce qu'il y a une souffrance et quelle place ça prend aussi dans sa vie parce que je trouve que c'est là où on peut vraiment voir en essayant de sortir. C'est un peu impossible, mais en essayant quand même le plus de sortir des schémas dans lesquels on est tous pris. Mais c'est aussi le trouble alimentaire, il est avant tout défini par une obsession. Enfin, ça prend vraiment tout l'espace. Quoi. Ouais,
c'est vraiment comme ça que tu l'as expliqué au début, en plus. Hein. Je trouve que tu as très bien expliqué, c'est-à-dire que tu disais en gros que vraiment, je le mets avec mes mots, mais que l'anorexie, c'est genre un hyper contrôle, tu sais. Et le truc, c'est que c'est exactement ce que tu dis, ça peut être un hyper contrôle, mais hyper contrôle dans quel sens? Dans la perte de poids, ok, là c'est de l'anorexie. Mais si c'est un hyper contrôle dans le gain de masse, du coup, c'est plus d'anorexie. Pour moi, c'est la même. Enfin, la façon dont tu l'as expliqué, j'entends la même description pour deux trucs soi-disant différents.
Bah, sur le contrôle. Et ensuite, c'est là où il y a tout le reste qui diffère.
Ouais, c'est
et
le résultat, mais
voilà. Enfin, c'est sûr que c'est compliqué d'être anorexique et bodybuilder.
Ça risque d'être dur.
Mais dans ce côté-là du contrôle, il y a vraiment quelque chose, je trouve, de similaire. Après,
est-ce que les souffrances sont pas un peu les mêmes quand même ?
J'en sais rien. Mais en tout cas, pour l'anorexie, on voit que ça rend malade. Ça rend vraiment malade. Et il n'y a pas que ça, hein, mais... Enfin, je me rappelle d'une personne qui me disait qu'elle ne pouvait plus aller manger avec ses amis au restaurant, elle ne pouvait pas sortir prendre l'apéro, parce qu'en fait, ce serait s'exposer à de la nourriture qu'elle ne peut pas contrôler. Et quand elle le faisait, elle ne mangeait pas. Par exemple. Elle était plus du côté de l'anorexie, cette personne-là, mais comment ça venait restreindre toute sa vie. Il n'y avait que ça, et ça, c'était passion bouffe, quoi, tout en ne mangeant pas. Et d'ailleurs, quand on essayait de pousser un peu, qu'est-ce qui vous anime sinon en dehors de ça, ça ramait un peu justement, parce que la nourriture, il n'y avait que de la place pour ça, quoi, malgré le fait qu'il n'y en ait pas du tout dans son estomac. Enfin, ça aussi, c'était intéressant, comme je trouve que c'est un contraste qui est assez intéressant.
Ouais, et puis c'est vrai qu'en plus, on se retrouve assez facilement dans des schémas obsessionnel ou en fait parce que on a obsédé sur notre corps et que pour X raisons en fait on a perdu le contrôle de son corps par exemple typiquement pour des gens qui souffrent de surpoids enfin moi je le vois avec les gens avec qui je travaille qui sont en situation de surpoids important mais ils ont souvent l'impression d'avoir perdu le contrôle tu sais c'est et à côté on leur dit il suffit d'avoir une alimentation équilibrée. Et c'est que vous ne bougez pas assez. Donc, tu sais, c'est ultra culpabilisant, tu vois. On dit, il suffit d'avoir une alimentation équilibrée. Et du coup, ils vont se dire, je vais suivre les recommandations alimentaires. Parce que les recommandations alimentaires, c'est genre 60% de glucides. Donc, forcément, si tu avais des problèmes de surpoids, ça ne marche pas trop. Et le truc, on te dit, non, il faut que tu bouges plus. Et c'est compliqué, en fait, si tu es déjà malade, de bouger énormément, tu vois. Donc, enfin, c'est ultra fourbe. Et du coup, les gens reviennent à se dire, mais c'est moi, alors. C'est moi qui suis nul, en fait. C'est moi qui... Enfin, Et même sans rentrer dans des situations de troubles comme les cas sur lesquels tu travailles, tu vois, je pense que tout un chacun, aujourd'hui, dans une société moderne, se retrouve un peu face à ça, tu sais. On a, je pense, pas mal de trucs qui font... Je suis sûr que les TCA sont pas nouveaux, je suis sûr qu'on en parle plus qu'avant. Peut-être qu'ils sont plus développés, ça j'en sais rien, mais je pense qu'aussi on les souligne vachement plus, en partie parce que on nous renvoie ça un peu à la gueule, en fait, dans notre situation, dans notre système de santé. Et je dis pas médical là pour le coup, parce que vraiment, système de santé au sens très très large du truc, hein, c'est-à-dire les recommandations alimentaires qu'on a, tu vois, enfin, la communication télévisée, enfin, tu vois, c'est pas un truc de médecin. Hein. Donc quand je dis système de santé, c'est la totalité de la communication qu'on a sur la santé. C'est un truc ultra culpabilisant. Donc effectivement, si tu as une situation où tu es propice, je pense, en gros, si tu te retrouves dans un contexte qui est propice au développement d'un trouble du comportement alimentaire, enfin, là, la société moderne, notre société occidentale, je pense, est un excellent terreau pour le développement d'un trouble du comportement alimentaire. Parce qu'on te dit que c'est de ta faute, quoi. C'est pas parce que quand tu vas à la cantine, la moitié de ton assiette, c'est quasiment que des glucides et que du coup, tu vas forcément grossir, tu vois. Enfin, les gens, je pense que sur le côté de l'obésité, en fait, t'as beaucoup de gens qui se disent qui finissent par se dire que c'est eux qui sont nuls, tu vois. Et du coup, on est obligé presque de leur proposer des solutions, des rustines émotionnelles, en disant non, mais c'est dans tes gènes, tu vois. Enfin, je te laisse imaginer le chasseur-cueilleur en surpoids qui va survivre, tu vois. Enfin, ça peut être vraiment compliqué. On n'est pas vraiment fait pour être dans les extrêmes, en fait, que ce soit. Alors moi, je m'intéresse beaucoup au surpoids parce que c'est plus ça que je rencontre, hein, professionnellement, et assez peu finalement de gens qui sont en situation de sous-poids. Même si ça arrive aussi, mais c'est juste moins fréquent. Donc forcément, le regard est un peu différent. Mais ce truc de culpabilisation, je pense, c'est super important. Et pouvoir dire aux gens, c'est pas de ta faute, en fait. C'est pas de ta faute. Et ça, c'est un truc, je pense qu'on a besoin de l'entendre. C'est la situation de santé dans laquelle on se trouve, en général, c'est pas de notre faute, en fait. Puis, même si ça l'était, en fait, on s'en fout, c'est pas le sujet. Il faut juste pouvoir accepter que c'est pas de sa faute. Et que si ça l'a été, en tout cas, ça ne l'est plus. Parce que là, on essaye de faire quelque chose, quoi. Tu vois. Oui, moi, c'est mon regard sur la situation. Parce que provoquer ton propre trouble, mais il a une racine quelque part, tu vois. Donc, plutôt que de se taper sur la gueule, peut-être qu'il vaut mieux essayer de, tu vois, d'encourager les gens à sortir de ce schéma-là. Parce que même si c'est eux qui l'ont déclenché, leur dire « Mais qu'est-ce que tu ne te rends pas compte ce que tu te fais ?» Tu vois, enfin... Je suis sûr qu'il devait y avoir ça dans les situations familiales, non ?
Je vois de quoi tu parles. Après, j'apporterai quand même une nuance, c'est-à-dire que... Alors.
C'est pour ça que tu es là, hein. Sinon c'est des monologues un peu chiants. Hein.
Non, mais c'est-à-dire... Alors, bien sûr qu'il y a cette notion de culpabilité qui est contre-productive. Hein. Si on parle en termes productifs, c'est contre-productif parce que c'est juste de l'auto-accusation... Ça mène nulle part, à part un certain plaisir masochiste à la limite, mais sinon, ça sera pas. Et il y a aussi le fait de ne pas de se déresponsabiliser de ce qui se passe. Et trop souvent, en tout cas en psy, mais ça c'est normal parce que c'est aussi compliqué de. Enfin, c'est pas une tâche facile que de réussir à s'écouter un petit peu, à s'autoriser à s'écouter, c'est souvent non, c'est pas de ma faute, enfin, on ne parle pas de faute justement, mais c'est pas moi, c'est l'autre. Et si c'était un peu toi aussi, c'est pas grave, mais si c'était un peu toi, parce que en se disant ça, ça veut dire qu'on peut aussi avoir une influence sur ce qui se passe. Je dis pas que ces personnes là sont conscientes de leur comportement, pas du tout, et d'ailleurs c'est justement des choses qu'elles ne savent pas, et c'est bien pour ça que ça s'exprime à travers le comportement. Mais est-ce que, en tout cas en tant que psy, est-ce qu'avec le psy ça serait pas le moment d'essayer de découvrir, de construire des choses qui nous permettent de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et une fois qu'elles sont comprises, c'est déjà une étape déjà hyper importante. Et c'est une étape qui permet après ensuite de faire un choix sur est-ce qu'on garde ce comportement, est-ce qu'on change s'il fait souffrir et comment on le change et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, etc. C'est un peu grossier ce que je dis, mais c'est un peu comme ça que je vois la chose. Et ensuite, pour ce qui est de la société, oui, il y a clairement une culpabilisation, je trouve, ne serait-ce que là, pour la crise sanitaire. Le corps, c'est bien quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Enfin, la maladie, ça montre bien ça. C'est juste qu'il y a une limite entre le contrôle du corps et se dire, j'en suis responsable.
Ouais.
Et donc, ce que je disais pour la crise, c'est que voilà, c'était oui, c'est de votre faute si les autres sont malades, parce que vous n'avez pas fait les gestes barrières, etc. Alors qu'on parlait quand même d'un virus, d'un micro-organisme qu'on ne voit même pas. Et malgré plein de gestes barrières, il y a plein de gens qui sont tombés malades. Enfin bon. Et j'ai trouvé ça assez, c'était assez traumatisant. Et d'ailleurs, c'est ce que je suis intervenue sur une plateforme d'accueil pour justement le Covid en rapport avec ça. Et justement, les gens me parlaient beaucoup de ça. Et ça me rappelait un peu cette pratique que j'avais avec les troubles alimentaires autour du corps et le fait que les gens se culpabilisaient parce qu'ils n'avaient pas assez de contrôle, ils n'avaient pas assez de maîtrise. Mais tranquille, on ne peut pas complètement contrôler son corps. Et la maladie vient justement nous rappeler que non. Et qu'il y a quand même quelque chose qui nous échappe toujours. Et ouais, c'est pas grave.
J'ai eu des conversations comme ça de gens qui comprenaient pas comment ils avaient pu tomber malade. Mais j'ai fait tous les gestes barrières et je fais oui, mais attends, tu travaillais en fait dans un bureau ou dans des espaces, tu t'es retrouvé à proximité de gens qui étaient peut-être infectés. Du coup, peut-être que c'est comme ça que ça a eu lieu. Je veux dire, t'as beau être prudent, c'est pas ta faute quoi. Tu vois,
c'est le virus, c'est un tout petit truc qu'on voit
pas. T'as un truc qui circule dans l'air ou qui circule sur les surfaces. Je veux dire, à un moment, t'as pas fait gaffe, t'as touché un truc, t'es gratté le nez, hop, trop tard. Non, mais c'est bon, ça veut pas dire que t'es nul, quoi. Et du coup, le truc de culpabilité est bizarre. Ouais.
Et en même temps, c'est une façon, je retourne un peu sur un sujet un peu plus politique, c'est vrai, mais c'est ce que Michel Foucault disait quand il parlait du biopouvoir et comment, en fait, la société occidentale de nos jours s'appuie sur le contrôle des corps pour le contrôle du reste, en fait, pour comment, par ce qu'on appelle le biopouvoir, le contrôle du corps, on peut réussir à faire, en tout cas, que la société fonctionne de nos jours. Et donc, culpabiliser, dire qu'il faut se contrôler, ça vient aussi du système. Mmh. Il fonctionne comme ça.
Ouais, c'est un peu, en plus, je ne voudrais pas partir sur ce sujet-là, parce que là, on est vraiment parti pour la nuit, mais... et en plus, on a des contraintes horaires, quand même, je pense. Des choses autour de... Alors, c'est pas forcément de l'alimentation pure, mais l'idée de mettre en avant l'alcool, par exemple, et ensuite de te dire que c'est mauvais pour la santé, c'est un peu la même chose. On te dit « Hey, c'est vachement dangereux pour toi, mais regarde, ça serait vachement bien si tu consommais ça. » Et du coup, on fait la même chose avec le sucre. Et donc, typiquement, je sais pas... on va prendre la pub Snickers. On dit, tu t'es vu quand t'as faim, mange un Snickers ou je sais plus quoi. D'ailleurs, je suis pas très bon en pub. L'ancien pubard, c'est terrible, mais bon, c'est pas. Mais je crois que c'est ça. Bref. Et donc, mais à côté, on te dit, attention, pour une bonne santé, manger équilibré, allez sur mangerbouger.fr. Et le truc s'appelle mangerbouger, quoi. C'est en gros, il faut que tu manges mieux et que tu bouges plus. Je fais ouais, mais en fait, c'est pas aussi simple que ça. Et du coup, si je suis en mauvaise santé, c'est que je mange pas bien et que je bouge moins. Tu vois, est-ce que s'il y a pas peut-être d'autres choses derrière, tu vois, par exemple, le fait qu'on m'a encouragé toute ma vie à bouffer des sneakers, peut-être, tu vois, et que j'ai beau bouger autant que je peux, le sneakers il va laisser des traces, quoi. Mais est-ce que ça, c'est ma faute ou est-ce que c'est la faute du fait qu'on a laissé ce genre de produit, et je ne suis même pas spécialement en train de taper sur les sneakers pour le coup, mais on a laissé ce genre de produit en fait sur le marché pendant trop longtemps, alors qu'on sait pertinemment que ça a des conséquences absolument catastrophiques sur la santé. Tu vois, là, on rentre sur tout un truc de... C'est vachement plus facile plutôt que de se poser ces questions de fond et de dire, en fait, non, c'est toi qui es nul. C'est pas... Attends, il y a des gens, ils mangent des sneakers, ils sont pas gros, regarde-toi. Toi, tu manges des sneakers, t'es gros, lui mange des sneakers, il est pas gros, donc du coup, ça veut dire que c'est toi qui es nul. Voilà, et c'est beaucoup plus facile, ça nécessite beaucoup moins d'efforts, et c'est vrai que du coup, c'est un peu particulier. Quoi. Avant qu'on parte sur des dérives complètement sociétales, et du coup, pour refaire un épisode sur les communautés, et surtout que je vais commencer à pester, je pense, si on rentre dans ce sujet-là, donc Je devrais faire des épisodes où juste je peste, tu sais, dans un coin comme ça. Personne ne les écoute, mais moi, ils sont là et moi, j'ai extériorisé le truc. Donc, en tout cas, merci vraiment en tout cas d'avoir expliqué tous ces trucs, Rachel. Moi, ça m'a donné des regards vraiment différents et ça m'a permis, en tout cas, je pense, de mieux comprendre d'un point de vue, je vais dire une définition technique au risque de mal représenter ça, mais juste, je pense, de mettre un peu de clarté, en fait, sur ces mécanismes. Et tu vois, cette idée du rapport à l'image, en fait, est assez important. Et je pense que les gens qui se posent des questions là-dessus, déjà d'une, ou qui sont vraiment inquiets, en fait, de leur image personnelle, pourront peut-être trouver quelque chose dans cet épisode. Et sinon, est-ce qu'il y a des ressources particulières que tu recommanderais à des gens qui se posent un peu des questions ou qui... Enfin, est-ce qu'il y a des ouvrages un peu de référence pour le néophyte, par exemple, qui existent ?
Moi, le seul truc qui me vient en tête, c'est pas un livre, c'est un film.
Ouais.
Ça parle d'anorexie, mais... Ouais, il est lourd, ce film, quand même, mais il est aussi très beau et il est très juste. C'est To the Bone, qui est en ce moment en plus sur Netflix, qui parle très bien de ça et qui parle très bien d'une façon très, très discrète, mais aussi du lien à l'autre, du rapport à l'image et du rapport au regard de l'autre aussi.
Ouais.
C'est des choses qui sont très importantes. Alors, c'est vrai qu'on a un peu dérivé, etc. Et que je pense que ça aurait mérité un autre épisode aussi sur la question du regard de l'autre et toutes ces choses-là, etc. On n'a pas eu le temps et il fallait faire des choix.
Mais c'est pas grave, tu reviendras.
Mais qu'en tout cas, il y a ce film-là qui est plutôt pas mal. Après, le reste, honnêtement... des livres pour les néophytes, j'en connais pas trop. Et si vraiment les gens ont des questions,
où est-ce qu'on peut te trouver pour te poser des questions ? Parce que je suis sûr.
Voilà, je pense qu'il faut aller voir
ce podcast. Alors non, il faut aller voir Rachel, Rachel Lostik, mais Pixel clinicienne à Paris. Non, dis-nous, est-ce qu'on peut te trouver du coup justement pour les gens qui se posent des questions là-dessus, peut-être soit pour consulter avec toi, soit juste pour poser des questions, peut-être, je sais pas.
J'interviens dans une association qui s'appelle Enfine. On est joignable en ligne sur enfine.com. Il y a tout un portail. On fait des groupes de parole pour les personnes atteintes de troubles alimentaires, mais aussi pour les parents, les proches. Et on a aussi une boîte mail dont je suis responsable, écrire à un psy, et sur lequel vous pouvez me contacter. Je ne reçois pas encore en libéral, mais ça ne saurait tarder. Et puis, donc, si vous avez des questions sur ce sujet-là, on pourra en discuter ensemble. Et aussi, on a une ligne d'écoute avec des personnes qui sont formées et qui sont très au courant de ces questions-là.
C'est super ça.
Pour en discuter.
Tu me donneras tous les détails que je puisse les rajouter dans la description de l'émission, s'il te plaît.
Ouais.
Et comme ça, on pourra mettre les gens en relation avec toi et l'association si justement c'est des sujets qui les intéressent. Parce que je pense qu'aujourd'hui, dans le monde de la santé, tu as énormément de choses qui sont en relation avec l'alimentation. Et tout ne serait peut-être pas catégorisé comme un trouble à proprement parler, mais enfin, je veux dire, c'est pas parce que c'est pas une TCA qu'il y a pas de souffrance, quoi.
C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que l'association, on part de l'abord du TCA, mais qu'on parle aussi de toute question alimentaire, en fait. Et ce qui s'y rattache.
Écoute, merci beaucoup en tout cas d'être venu sur l'émission pour parler de ça. Et comme je pense que tout le monde l'aura vu, c'est un sujet qui me passionne et c'est pour ça que j'ai pas réussi à me taire. Et du coup, je m'excuse auprès de ceux qui m'ont entendu déblatérer sur mes visions du monde. Mais bon, en tout cas, j'espère que ça sera plu à tout le monde et merci d'y avoir contribué.
De rien, ça m'a fait très plaisir et c'était aussi très intéressant. Comme quoi, à partir de l'alimentation, on peut raconter plein de choses.
Ouais. Merci beaucoup, Rachel.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté l'émission. Si vous voulez contribuer à son développement, la meilleure chose à faire est de partager l'épisode et de la noter sur Apple Podcast. Je suis également très friand de vos commentaires, comme celui-ci de Romain Potier. J'ai découvert cette semaine ton podcast, c'est vraiment cool. J'ai écouté Major Mouvement et Jérôme Ratoni, que je connaissais déjà, mais là, ça donne une super perspective. Ça, ce sont justement deux de mes épisodes préférés, pour des raisons très différentes. Greg, donc Major Mouvement, car son professionnalisme détendu est tout simplement un bonheur pour la conversation. et Jérôme Ratoni pour ce débordement de gentillesse qui renvoie. Je vous invite à découvrir les deux épisodes si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.